RVA.
Cette semaine, direction un site historique pas comme les autres, nous nous sommes rendus aux grottes de Jonas, où nous avons rencontré le seigneur de ces lieux, Mathieu Ponce, plus connu sous le nom de Melchior de Jonas, qui nous a fait découvrir cet endroit rempli d'histoire. Pour commencer, quelle est l'histoire de la forteresse de Jonas ?
C'est une forteresse Jonas qui a été entièrement creusée par la main de l'homme. Il n'y a rien de naturel, tout est artificiel. Tout a commencé aux alentours de l'an 1000. Une petite communauté de moines vient s'installer ici dans le volcan. Ils creusent à l'intérieur pour faire l'oratoire, l'ancien sanctuaire celte, et ensuite cette chapelle Saint-Laurent-des-Roches. L'occupation monastique a été courte. Très vite, les seigneurs de Jonas vont s'emparer de la falaise. Ils vont la faire fortifier afin de pouvoir contrôler la magnifique vallée de la Couspavin qu'on voit d'ici. C'est une vallée très riche. C'est une portion de la Via Arvernia, une ancienne voie romaine qui a traversé notre région et qui allait jusqu'à Sainte-Enchante-Maritime.
Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces grottes uniques en leur genre ?
Ici, vous allez voir plusieurs aspects du village, surtout le centre du village troglodyte. Le centre, comme dans toutes les villes classiques, c'est la chapelle, avec des fresques les plus anciennes d'Auvergne, des fresques qui datent du XIe siècle, des fresques d'inspiration byzantine qui racontent, à travers de moult couleurs, la passion du Christ. Ensuite, vous verrez le frère Odon d'Arcival dans la barbacane, qui est une pièce défensive qui protège la porte de notre forteresse. Et ensuite, vous terminerez dans la boulangerie. Vous verrez Dame Marianne, mon épouse, qui va vous esbaudir de son savoir. Et on termine dans le château de Jonas, dans mon castel, avec un escalier à vis qui a été entièrement creusé à la main dans la roche, qui monte sur 4 étages. Et là, vous atteindrez ma chambre et vous aurez une vue panoramique sur l'ensemble de la vallée de la Couspavin.
Principalement, par qui étaient occupées ces grottes ?
Souvent, l'habitat troglodyte est occupé par des moines, ou alors par un castel, ou alors par des habitants très pauvres. C'est les trois ordres, la noblesse, dont je fais partie, le clergé, qui va avoir une partie ici avec mon chapelain dans la chapelle, et bien sûr un habitat populaire qui va être au sein de la forteresse, mais aussi autour de la forteresse. À Jonas, il y avait un habitat troglodyte et aussi un habitat bâti qui était autour.
Finalement, qu'est-ce qui a poussé les premiers habitants à venir s'installer ici, en plein cœur de l'Auvergne ?
Ici, c'est la foi qui a poussé les gens à venir habiter à Jonas. On est dans un siècle important de l'histoire du Moyen-Âge, c'est l'an 1000. On pense qu'ici à Jonas, il y avait un lieu de culte celtique. On a retrouvé, il y a des traces au musée Bargoin, des petites statues de dieux gallo-romains. Et sûrement, ce lieu était fréquenté par les gens aux alentours. Et en Auvergne, et comme partout, c'est la tradition d'aller christianiser les anciens sanctuaires celtes. Donc, on va toujours se mettre sur des endroits où il y avait déjà des lieux de culte. Saint-Nectaire, c'est le mont Cornador. C'est un mont qui était vénéré par les Celtes. À Orcival, c'est un lieu de culte celtique avec une source miraculeuse, Notre-Dame du Port. Tous les monastères ou les églises ou les chapelles ou les cathédrales ont été implantées dans des lieux qui étaient déjà connus et pratiqués religieusement, ou par les Romains ou par les Celtes.
Est-ce que ce sont des lieux d'habitation où il y fait froid ?
Jusqu'à quasiment à la guerre de 14, les gens s'habillaient quand ils rentraient chez eux. En fait, on s'habille quand on rentre à la maison parce qu'on chauffe très peu. Ça, pendant des siècles, ça, c'est le chauffage, c'était une idée moderne. On chauffe très peu et ici à Jonas, on a une température, par exemple, contrairement à nos voisins du Roll où il fait très froid l'hiver, à Jonas, il fait quand même très doux.
Avec quels outils et quels matériaux ces grottes ont-elles été construites ?
Alors, elles ont été creusées à la pioche, sûrement à la barre à mine aussi. Marteau et burin, on voit bien ici dans la chapelle les traces de pics. Il faut voir que toutes les façades étaient maçonnées. Donc, on va voir ou des façades en bois, donc sûrement dans les habitats les plus pauvres. On va voir des façades en torchis aussi, qui permet aussi de tempérer. La chaux vive va arriver aussi pour faire un rôle de régulateur, absorber l'humidité. C'est le problème un peu de l'habitat troglodyte. C'est ça. Alors, à Jonas, il y a toujours, vous verrez dans le château, un système de courant d'air qui va permettre d'assainir les pièces. Et on va tout passer, on va chauler, comme on dit au Moyen-Âge, ce qui fait que la chaux va prendre l'humidité l'hiver et rendre l'humidité l'été.
Savez-vous pourquoi on ne retrouve pas de meubles ici comme on peut en retrouver dans les habitations d'aujourd'hui ?
L'histoire de Jonas qu'on représente lors de notre visite, on se passe dans un siècle d'or de l'Auvergne, c'est le XIIe siècle, c'est là où toutes les églises romanes vont se construire, tout se construit en même temps. On vient aussi de lancer un concile à Clermont, c'est-à-dire que le pape est venu à Clermont, vous voyez l'importance de la région, c'est le lancement de la première croisade, une aventure qui va emmener des milliers de gens à des milliers de kilomètres. On va retrouver aussi tout le savoir antique, hein, grâce à ces croisades. Et le Moyen-Âge, c'est un siècle où les gens n'ont pas de meubles, hein. Alors ça, on a du mal aujourd'hui à se le mettre en tête. Mais le meuble principal, c'est le coffre, qui va pouvoir suivre partout, des tapisseries, hein, et des tapis. Et en fait, les seigneurs voyagent beaucoup et l'habitat est tout petit, donc les gens habitent sur des toutes petites surfaces, hein. Alors, ne voyez pas par misérabilisme, hein, mais les gens passent carrément 12 à 14 heures par jour dehors. En fait, le foyer, c'est le feu. C'est le foyer fiscal, c'est le foyer où on vient se reposer, on vient dormir. On dort à plusieurs au Moyen-Âge dans le même lit, hein. Ça va durer ça pendant très longtemps. Mais on n'a pas cette vision de salle d'apparat ou de repos comme on peut l'avoir plus tard, hein.
Alors, on sait que le Moyen-Âge était une période de notre histoire particulièrement violente. Est-ce que le XIIe siècle était une période propice aux combats en Auvergne ?
Les guerres au Moyen-Âge ont été très très rares. La guerre coûte très cher. Souvent, on dirait aujourd'hui, c'est des opérations un peu commando. C'est-à-dire que ça implique très peu de personnes. Par contre, les seigneurs sont des véritables machines de guerre, hein. Souvent, on va se battre. Là va arriver le fameux concile de Clermont, où Urbain II vient en fait pour excommunier le roi de France. Deuxièmement, imposer la paix de Dieu, c'est-à-dire de plus se battre le dimanche, d'essayer de pas se battre entre seigneurs aussi et entre chrétiens. Et où il va lancer cet appel à partir à Jérusalem, où en fait il va essayer d'envoyer les jeunes un peu fougueux. Au lieu de se battre entre eux, il va les envoyer se battre pour une noble cause, qui est la libération du Saint-Sépulcre, hein, du tombeau du Christ. A priori, ici, on a eu le gros problème, ça a été le passage des routiers anglais. Pendant la guerre de Cent Ans, on est entre la frontière entre l'Aquitaine et le Royaume de France. Normalement, on fait partie de l'apanage de la reine Aliénor d'Aquitaine, de sa dot. Certains seigneurs vont choisir le camp des Anglais, certains seigneurs vont choisir le camp des Français. Mais pendant les grandes périodes de trêve, ça on l'oublie souvent, les soldats ne sont pas payés, alors ils vont ravager entièrement les régions. Alors l'Auvergne va, le siècle d'or de l'Auvergne, que je parlais tout à l'heure, 12e siècle, va finir au 14e, avec ces pillages anglais qui vont, ou français, hein, de ces grandes compagnies de mercenaires, hein, les routiers, les mortepayes, comme on les appelle au Moyen-Âge, qui vont ravager et mettre sa coupe serrée. Alors souvent, ils prennent des châteaux isolés. Ici, il y a eu les grottes de Châteauneuf, hein, qui sont aussi un habitat troglodyte à Saint-Nectaire, qui ont été occupés par Amerigo Marquesque, qui est un des plus grands routiers français. Et après, cette fin de guerre, la guerre de Cent Ans, cette fin aussi de la peste noire, les gens vont commencer à reprendre pied dans un habitat plus traditionnel. Ça sera la fin de Jonas, hein. Fin 14e, début 15e, l'habitat troglodyte a plus d'intérêt. Alors ici, il va rester un chapelain, va rester sûrement des bergeries, les gens les plus pauvres aussi qui vont sûrement rester à Jonas, et les gens les plus riches vont aller dans le village de Lomprat ou au village du Chiamba.
Généralement, quel est le ressenti des gens pendant et après les visites ?
Ce qu'ils aiment beaucoup à Jonas, c'est qu'ils ont l'impression d'être dans une immersion complète, hein. Il y a un autre Moyen-Âge, hein. Pendant très longtemps, on a été nourri sur ce Moyen-Âge un peu noir. Et le XIIe siècle, c'est un siècle très lumineux, hein. C'est le siècle de la Vierge, c'est le siècle du bleu. Et les gens, ça les étonne parce qu'ils s'aperçoivent que là, c'est des gens qui sont quand même lettrés, qui se lavent, qui savent se soigner, qui sont cultivés, qui voyagent aussi beaucoup. Alors ça, c'est ce qui les impressionne, hein. C'est des gens qui peuvent faire avec les pèlerinages, qui ont fait des milliers de kilomètres, donc qui ont vu beaucoup de culture, hein.
Voilà, donc si vous souhaitez venir découvrir ces grottes, elles sont ouvertes jusqu'au mois de décembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site jonastroglo.fr.